Enfin, c'est un peu aussi une quête d'arriver à proposer aux chefs et sommeliers d'aujourd'hui, quels que soient les univers, des choses qui peuvent leur parler en termes d'accord avec la jolie cuisine terre-mère, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression du lieu dans tout ça qui fonctionne.
Ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a amené au cidre, c'était quand même la gastronomie et les accords. Enfin, on a fait du cidre pour manger des choses avec, hein, dès le début.
Soyons honnêtes.
Croquer une pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro !
Quand vous avez bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.
T'as prévu quoi là en petit toast là pour commencer ?
Ça c'est blé noir algues. Bon, chiffre de blé noir aux algues. Toi t'as amené des pickles, des carottes. Et dessus il y a du cabillaud avec un petit peu d'huile d'olive et du curcuma. Et au-dessus, il y a des algues.
Petit montage gastro, là.
Qu'est-ce que je sais?
Fin de tournée. L'ascari jeune, on peut essayer ça. Ascari jeune, moitié caso, jaune, moitié guilvic, très sec.
Nouvelle cuvée.
Garder un peu en cave.
Vous testez...
Nouvelle et pas nouvelle à la fois, puisque c'est sur 2019 qu'on avait expérimenté ça. Et du coup, on commence à trouver ça sympa. Donc, après, c'est un petit essai, 600 bouteilles, donc ce sera vite vu, vite bu. Et sinon, on a la version un peu plus tannique là, avec l'Extra Brut 2021 Freerider, qu'on peut tester aussi, à boire pas trop froid pour le coup.
En tout cas, c'est très agréable de commencer par Scary Gen. Beau côté vigneux qui ressort, frais. Je pense que ça peut être sympa aussi, avec le côté pickles.
Ouais. Cabillaud, huile d'olive, curcuma et algues.
Et il y a un peu de curry, je crois, dedans aussi, dans les pickles.
Ok.
Ouais.
Ça fait un peu de couleur aussi. Puis là, le cidre est jaune clair.
Accord chromatique.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les couleurs, mais c'est pas mal. Là. Tu rêves d'encapsuler les odeurs. Les couleurs, mais tu veux pas.
J'aurais fait passer par le micro.
Ouais.
Les gens imaginent, c'est plus intéressant. En tout cas, ça fonctionne très très bien.
Voilà.
J'aime bien le petit twist amené par le petit craquelin sarrasin. On a vraiment la rondeur, ce côté un peu vineux qui vient enrober ce côté de poisson avec l'huile d'olive là. La fraîcheur du pickle, c'est un peu pimenté, épicé là, les petites épices qu'on retrouve bien.
Petit jeu d'équilibre acide-amer, un peu plus acide qu'amer, mais...
Ouais, là, on va plus chercher côté fraîcheur, acidité.
Vivacité qui évoque les vins blancs pour nous, en fait.
Et ces vins blancs, d'ailleurs, ça évoque aussi vos racines, un petit peu.
Ouais, le côté tendu et minéral, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN de la famille de Marc, ça, sur Chablis. Des saveurs avec peu d'oxydation, en fait, et puis ce côté parfois agrume, parfois salin... Faut un peu caillou aussi. Bon, après, là, ça reste du cidre, donc c'est quand même important que la pomme soit présente, même si c'est de manière un peu différente ou un peu en contrepoint. Mais pour nous, c'est quand même important que ça reste aussi du cidre. On revendique aussi qu'on puisse faire des cidres différents, comme on ne demande pas à un vigneron tout le temps « Est-ce que ton vin sent le raisin ?» Bah, on s'autorise aussi à ce que ça aille dans d'autres directions. Mais par contre, la pomme, elle est quand même présente toujours en filigrane.
Parce que là, vous êtes à deux à penser les cuvées. Comment vous arrivez à équilibrer la chose en cave ?
Là, c'est plus la cuvée d'Isa, celle-là.
Ah !
C'est son idée.
C'est ton idée.
J'ai un peu bassiné.
Avec le temps, ça s'affine et ça prend même un peu de rondeur. Hein. C'est pas si... Raide que ça, quoi.
On a souvent cette discussion sur jusqu'où on va dans le côté tendu et puis qu'est-ce qu'on peut s'autoriser comme chose plus ronde, plus charmeuse. Donc
bon,
le battle.
C'est pas très très dur à boire.
Non, on a
comme
un côté
ça pour rentrer en matière. On un peu à apéro entrée, on est pas mal quand même.
Le battle Chardot méga tendu versus Chenin un peu exubérant, on a souvent ce battle. Donc c'est aussi l'avantage des deux, c'est que indépendamment de ce qu'on est chacun ou de nos compétences, ça permet des fois aussi de trouver des compromis. Et, alors, des fois c'est difficile, mais des fois c'est aussi c'est un moyen de s'élever. Parce que du coup, ne passe que ce que sur lequel on est vraiment d'accord tous les deux. Et du coup, il y a un filtre qui est parfois intéressant. Thèse, antithèse, synthèse, ça marche en style.
Ah non, mais c'est complémentaire, c'est intéressant. Chacun a des idées, je pense, à des moments différents. Et puis, vous expérimentez au cas de pas mal de choses, finalement.
Ouais, après, ça, faut pas oublier que ça dépend beaucoup de l'année et de ce qu'on a dans nos vergers à ce moment-là. Hein. Parce qu'on n'a pas tous les ans la même chose, on n'a pas toujours les mêmes variétés dans les mêmes proportions, et même chaque variété goûte jamais pareil d'une année sur l'autre. Hein, donc ça vient un peu en fonction de l'inspiration aussi.
Ce que vous inspire le verger finalement sur le millésime, quoi.
Ben ouais, on n'a pas trop le choix puisqu'on travaille qu'avec nos fruits, donc il faut aussi s'adapter à ça, quoi.
Et là, sur une année comme 2022, par exemple, qui a été particulière par rapport au millésime qu'il y a eu, comment vous avez vécu cette récolte qui était la 9e, si je ne me trompe pas, c'est la 10e cette année.
Ouais. Et ben, c'est bien renseigné. C'était encore une année différente. Bon, là, c'est sûr que c'était particulier avec la sécheresse de cet été. Pas mal de fruits pour nous, on a de la chance, mais bon, des petits fruits, très concentrés. Donc ça va, il faudra que tu reviennes pour goûter l'année prochaine. Ça risque de faire des choses assez puissantes et qui ne laissent pas indifférentes.
Ouais, parce que du coup, il y a un potentiel aromatique, un potentiel alcool aussi qui est un peu plus fort, je
pense. Ouais, c'est ça. Donc, nous, en fonction des cuvées, on va avoir peut-être des parties pris, peut-être des cuvées avec un peu plus de sucre résiduel pour justement pas trop monter en alcool. Et puis parce que l'équilibre se fait comme ça aussi, par rapport à nos habitudes peut-être, des extra bruts à un petit peu moins extra bruts.
Ça c'est un effet de l'année, quoi.
Oui, forcément.
Le style est largement extra brut, mais les densités sont plus élevées, quoi. Le sucre résiduel.
Ouais. C'est ça qui fait la beauté de l'année. Et sur le 2019, du coup, est-ce que vous vous rappelez le millésime?
C'était une année compliquée. 2020 était superbe, 2018 pas mal du tout. 2019 était plutôt une année où il n'y avait pas beaucoup de douce amère.
Bah, on n'avait pas de pommes du tout, surtout.
Ah oui, ouais.
Et très peu de fruits.
Il y a eu du gel en fait, printemps 2019, donc c'était une récolte assez light.
Il y avait peu de caseaux, d'où le test Midvic caseau. Possible une année sur deux, parce qu'on a quelques arbres de caseau qui donnent suffisamment un an sur deux pour faire une cuvée. Donc c'était l'occasion d'essayer aussi d'autres choses, dans le registre un peu des cidres blancs à la morbihanaise, mais dans un travail où il y a peu de sucre résiduel, quoi. Contrairement à beaucoup de Guilvic qu'on boit avec plaisir, très, très fruité, très sucré. Là, l'idée, c'était d'aller chercher en direction des vins blancs, jusqu'où on peut aller avec la pomme, juste la pomme. Pas de co-fermentation, mais juste la pomme, dans une direction qui évoque le vin blanc. Et ben, l'idée, c'était justement de pouvoir accorder ça avec des choses un peu délicates. Des choses iodées, mais un peu délicates. Typiquement, là, le tartare de poisson à l'huile de noisette, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu aussi une quête d'arriver à proposer aux chefs et sommeliers d'aujourd'hui, quels que soient les univers, des choses qui peuvent leur parler en termes d'accord avec la jolie cuisine terre-mère, quoi.
C'est quelque chose que vous arrivez à faire, aller intéresser en tout cas les chefs peut-être locaux, ou les chefs un petit peu excentrés, on va dire, de chez vous, mais c'est quelque chose qui les intéresse sur des cuvées peut-être que vous proposez, peut-être plus que d'autres?
Ben, ça bouge pas mal en fait, et localement et plus loin. Ça a peut-être commencé à bouger un peu plus loin que dans les terres historiques de production de cidre, donc notamment en ville. Mais aujourd'hui, il y a aussi un intérêt de plus en plus fort pour les productions locales en cidre chez des restaurateurs en Bretagne ou en Normandie, on le voit. Et puis après, ça peut être la super chouette crêperie Trad ou de la crêperie plus gastro ou du resto. On a les trois et on a beaucoup de plaisir à proposer des choses comme ça. Après, les palais, c'est assez culturel. Les palais, il y a des palais qui cherchent l'acidité. Donc, c'était le cas par exemple à Nantes sur les accords qui ont été proposés là par les cadets à Nantes récemment. Mais ça peut être aussi une recherche de très belle amertume parce que culturellement, en Cornouailles, c'est quelque chose. Et donc, du coup, on va avoir une très belle crêperie qui va se tourner vers des cuvées comme Point Bar qui sont exclusivement centrées sur des variétés amères et douces amères du coin parce que c'est évocateur d'une mémoire gustative, olfactive chez les gens ici et que vraiment ça fonctionne très très bien. Avec le côté non filtré qui amène un petit supplément d'âme à ces cuvées qui les rapproche sans doute encore un petit peu plus des cidres paysans bien faits de la grande époque. Ah, ensuite, le renouveau du site chez les jeunes fait que, y compris localement, aujourd'hui, on arrive quand même à changer les habitudes de temps en temps et à pouvoir proposer des choses acidulées sur des huîtres ou autres et que ça suit bien. Mais il y a encore un long chemin à parcourir collectivement là-dessus. Mais en tout cas, ça bouge bien et ça nous encourage beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est très important. Ensuite, toutes les cuvées qu'on fait, on les aime, sinon on ne commercialise pas. Mais ensuite, elles sont très différentes et on ne vend pas les mêmes cuvées aux mêmes gens. D'où le plaisir aussi d'en avoir plusieurs.
Je vous ai mis un petit mousse de lentilles corail.
Ouais.
Avec un peu de gingembre, merci. Pour tenter autre chose. Est-ce et puis on peut peut-être un repressage peut-être dessus.
J'ai mis quelque chose pour vider les verres s'il y a besoin. Et un deuxième verre si tu veux comparer
des
choses.
Il y aurait
dire
prendre la route derrière.
C'est vrai que cette cuvée-là a été bien goûtée chez les restaurateurs pour son côté gourmand, mais aussi vif. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de tester ça sur le côté gingembre là.
Je pense que le fait qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de sucrosité peut calmer un petit peu le feu
des épices.
Le feu des épices. Et en même temps, vu qu'il y a aussi une acidité qui est là, qui équilibre aussi la sucrosité, on va aller chercher la fraîcheur.
Là, c'est vraiment le sujet de cette cuvée. Tout en équilibre, en fait. Ça fait trois fois qu'on l'a fait. Bon, au départ, c'est toujours des cuvées d'humeur qui sont éphémères, mais ensuite, les gens les réclament. Alors du coup, on recommence en essayant d'affiner un petit peu de fois en fois. Donc, il y a eu 2015, 2017 et 2020. Hein, donc, c'est vrai qu'on voit qu'on n'arrive pas tous les ans à faire cette cuvée-là. Et l'idée, c'est vraiment de tourner exclusivement autour des douces, des acidulées et des douces amères pour atteindre un peu cet équilibre un peu idéal, dans un registre qui ne va pas être un cidre très, très amertumé non plus, hein, donc moins tannique. Mais ça permet aussi autre chose, là, le fait d'avoir moins de tannin sur les accords. Je ne sais pas comment tu le...
Là, il y a vraiment une synergie, je trouve, sur cet accord. C'est vraiment quelque chose de supplémentaire.
Le tout est plus que la somme des parties. C'est ça, c'est là qu'on est content.
Oui, entre le fruit et les épices, là, ça se marie vraiment bien.
Ouais, là, je trouve aussi qu'on a vraiment quelque chose qui... Les deux se marient, mais en plus, on a quelque chose d'autre qui se dévoile derrière. Ouais, sur la durée...
On goûte quelque chose qu'on goûte dans aucun des deux séparément.
Ça, c'est chouette.
Ouais.
On va le garder, celui-là.
Et ça rejoint les intuitions qu'ont eues récemment... L'équipe de Julien Lemarié à Imayoko à Rennes et aussi les cadets à Nantes qui tous les deux, sans se concerter, ont proposé un accord là sur un repressage qui était plutôt des entrées, plutôt du salé et avec quand même pas mal d'acidité et des épices dans les plats. Et c'est vrai que le côté tendre de repressage, hein, formule d'Éric Bordelais quand même, clin d'œil. Le côté tendre vient équilibrer et ses saveurs effectivement épicées et puis le peps, ça colle bien.
On a vraiment le fruit qui revient, c'est impressionnant. Alors, je sais pas si c'est le gingembre qui vient remonter avec les petites épices là, mais on a un fruité un petit peu confit comme ça, mais en même temps une fraîcheur. c'est intéressant.
Et du coup, la botte secrète des douces amères, qu'on a rajoutée sur un site qui aurait pu éventuellement s'en passer, c'est aussi un moyen d'avoir un petit peu plus de structure et de longueur, sans excès, mais sinon c'est un petit peu court, et comme on est un peu accro aux variétés amères, on a souvent tendance à trouver ça court, sans ça. Donc là, on s'est arrêté aux douces amères, mais un petit peu. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie d'en mettre un petit peu partout. Voilà.
C'est le terroir, c'est notre cru.
En 2020, on en avait, et c'est vrai que le pays est connu pour ses douces amères. Quoi. C'est sûr que...
Vous avez une pomme en particulier, quand vous parlez de douce amère ou amère, il y a des pommes qui résonnent.
Ah, tu t'en souviens, la douce moine.
Je m'en souviens bien, la toute douce.
C'est pas la seule, mais il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, on sait qu'elle a été inventée en Pays de Quimperlé.
Beaucoup l'aiment, cette pomme.
Ah oui, elle a été beaucoup exportée.
Elle est travaillée par nos collègues et néanmoins amis normands. Et puis, on leur en a emprunté d'autres, hein, donc c'est ça qui est bien. Ça voyage, la pomme.
Et la Kermeria, d'ici aussi?
Kermeria inventé en Pays de Quimperlé et sans doute plus particulièrement à Cloire, ouais. Donc là, qui est une amère avec beaucoup de coffres et peut-être une tendance à une astringente quand même assez marquée et puis peut-être un peu réductrice aussi au niveau des fermentations. Mais en tout cas, beaucoup de caractère à laisser attendre un peu, mais qui récompense au bout avec ses saveurs bien particulières, un peu réglissées, un peu végétales. Qui la rend identifiable, en fait.
Et forcément, point barre.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on goûte là-dessus?
J'avais envie de tester cochon et algues.
Cochon,
mais c'est
ouais,
peut-être,
on peut faire deux... Peut-être que goûter algues, après cochon et les deux ensemble. Pour voir un peu ce que ça donne.
Alors, je sers.
Ambiance un peu pâté en croûte aux algues, un peu.
Voilà, exactement.
Ça, c'est intéressant. Parce qu'on parle souvent de cette cuisine terre-mère. Et, c'est un peu une identité du coin, quand même. En campagne à la mer. Donc, nos accords, ils vont souvent chercher dans cet esprit-là. Chips aux oignons, chips aux algues, blé noir, nickel.
Plein de petites choses. Comme quoi, on peut faire de beaux accords avec
pas grand-chose.
Petites choses sans trop cuisiner pendant des heures et des heures.
Mais c'est vrai que l'apéro a fait beaucoup pour le renouveau du cidre. Et que, parce que justement, on peut se faire plaisir, on voit que ça marche. Et avec pas grand-chose. Ce qu'on a dans le frigo, un petit reste de fromage, un petit reste de charcute, quelques légumes en pickles ou un petit tartare d'algues et le tour est joué, quoi.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas compliqué. Sur la logique des accords, en fait, pour nous, on a autant de plaisir à avoir un crêpier comme Olivier à Tibélic de Quimperlé, sortir point barre sur une magnifique complète au lard avec des petits oignons frits dessus là, de tester Scarigène à Nantes avec les frangins des cadets sur ce très très joli lieu jaune de ligne là, avec les bonnes de Noirmoutier, les algues, la coque et le fumet monté au beurre, c'était magnifique. Mais je dirais les deux salles, deux ambiances, mais c'est les deux sont chouettes pour nous, en fait. La gourmandise est tout terrain, quoi. On s'était déjà fait cette réflexion que les cidres doux amers du sud Bretagne, ils ont aussi cette particularité. Lorsqu'on les attend sur du poisson, on les trouve géniaux sur la viande. Et lorsqu'on les attend sur la viande, on les trouve géniaux sur du poisson ou des algues. Peut-être quand on boit local avec ce qu'il y a à manger dans le coin, souvent ça marche. Bah là, il y a un peu cette idée qu'on ne choisit pas vraiment entre le côtier ou le campagne. Les deux fonctionnent, quoi. C'est un peu la force de cette douce amertume-là du sud Finistère, quoi. Tu peux faire les deux.
Là, on est un peu dedans, là, avec,
bah là, on est dedans, ouais.
Avec les algues et le... Et on revient sur un cidre plus tradition, avec de l'amertume. Et c'est vrai que le côté iodé des algues et l'amertume de la cornouaille, ça fonctionne bien ici.
On est aussi sur un terroir côtier, sur cette cuvée. Et avec le temps, probablement aussi le sol un peu micaschiste ou la salinité environnante. Enfin, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais... Globalement, c'est sableau argileux avec un peu de schiste et d'amphibolite. C'est vrai que ça ne durcit pas dans le temps. La carmarine a plutôt tendance à s'apaiser un peu au niveau de ses tanins. Et c'est vrai que les choses iodées arrivent à se marier avec ça, malgré le côté fruité et la sucrosité légère, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression du lieu dans tout ça qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu dégustes le paysage ? Parce que ça, c'est un kiff.
Ça vient appuyer le caractère, en fait, de chaque élément. Quand c'est, même que ce soit de la charcuterie, là, on a l'amertume vraiment qui appuie ce côté-là, très animal. Et puis, on a le côté, avec le côté iodé. Alors, sur le tartare, c'était un peu plus doux, mais on avait quand même ce côté iode, marin, qui ramenait aussi beaucoup de fraîcheur. Donc, ouais. Je pense qu'en effet, marier les deux, ouais. Et c'est là où ça devient très intéressant de jouer avec tout ça.
Oui, le végétal issu de la mer avec... Ouais. Le carnet issu des terres, ça, c'est rigolo ça, c'est vraiment une identité. Mm.
C'est quelque chose que vous pensiez réaliser comme ça, bon, si je vous dis il y a 10 ans en arrière, sûrement pas, mais si vous faites un peu le bilan, entre guillemets, arrivé à votre 10e année de récolte cette année, qu'est-ce que...
Ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a amené au cidre, c'était quand même la gastronomie et les accords. Enfin, on a fait du cidre pour manger des choses avec, hein, dès le début.
Soyons honnêtes.
C'est sûr, ensuite, je pense que... Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans le sujet, donc c'est que on ne s'est pas tant que ça écarté de nos, de nos ambitions.
Ça reste une aventure un peu folle et un métier, on le dit souvent, très engagé physiquement et financièrement. Donc on ne voulait pas le faire trop tard. Il y avait une espèce d'urgence en nous de se dire c'est maintenant ou pas, mais il ne faut pas le faire trop tard. Parce que ça use un peu. Donc au bout de 10 ans, on confirme que ça use quand même pas mal. Mais on a aussi beaucoup de bonheur à la clé. Donc typiquement, là, quand on voit ce niveau d'entente avec des produits locaux, on se dit qu'on n'est pas loin de l'idée qu'on avait de faire du vin dans une logique d'expression du terroir, d'exprimer le lieu, quoi. On se dit qu'on y est quand même un petit peu. On a même eu tellement de choses à dire, en fait, avec ça, que l'idée de planter de la vigne nous a pas... Enfin, à part ressurgir plus que ça pour l'instant dans nos esprits. Peut-être un jour, quand on aura plus de temps, mais... En tout cas, c'est comme si le cidre ici, c'était le vin local avant, et que notre obsession, c'était de le remettre à table, quoi. Donc dévier du sujet, c'est lui donner moins d'intensité, en fait, au cidre. Le cidre comme vin local, et donc là, ce qu'on goûte tout de suite, là, ben c'est ça, quoi. Et ensuite, ben, ça n'empêchera jamais qu'on adore le vin et même la bière. Hein. Mais voilà, il a toute sa place aux côtés du vin et de la bière. Bière à laquelle on pense sans doute aussi assez peu sur des accords et qui peut être tellement, tellement magique à table. Donc c'est un peu même combat là-dessus. Et puis après, sans oublier qu'on doit aussi inventer une sorte de troisième chemin, ni vin ni bière, mais trouver aussi le... Sa propre grammaire, comme on dit, mais voilà. Le cidre, c'est un sujet en soi, et tout n'est pas rapprochable du vin de ce point de vue-là, mais après, on partage aussi beaucoup de points communs, et avec les vignerons, et avec les brasseurs.
Vous parliez de vraiment ce goût de lieu, de terroir, tout ça, et c'est vrai que c'est une question qui est très récurrente dans le milieu des vins, surtout à l'heure actuelle, l'impact du sol ou du terroir, voilà, comment il s'exprime dans un vin. C'est quelque chose que forcément on se dit que ça a un impact aussi dans les cidres au vu de l'arbre, hein, tout simplement. C'est un peu une question de bon sens.
C'est pas évident pour tout le monde, ça, cette question-là. Est-ce qu'on a autant d'expression d'un terroir dans le cidre que dans le vin ?
C'est un sujet.
Ça reste à démontrer. Et nous, on y croit, c'est sûr. Après, ça demande de la patience, ça demande de respecter les vergers, les fruits qu'on travaille. Parce que ben voilà, pour le prouver, il faut forcément que les fruits viennent
du lieu
qu'on veut exprimer.
Les levures.
Faut pas jouer là-dessus. Ça prend du temps, quoi. Le fait d'être sur des fermentations lentes, des maturations de cidre en bouteille. Les commercialisations au bout d'un an, deux ans de bouteille. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on peut-être on révèle quelque chose. Voilà, c'est pas forcément sur des cidres qui fermentent très vite, qui sont très filtrés, qu'on va faire une différence, évidemment.
C'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'on en arrive à la conclusion, comme toutes les personnes qui jouent avec les fermentations, qu'il n'y a d'expression du terroir que par les fermentations. C'est ça qui les rend précieuses. Et du coup, dans notre cas, plus elles sont lentes et longues, et plus on arrive à se différencier les uns des autres, quoi. Étant entendu qu'au départ, il faut partir avec que du local, donc fruits locaux et levures indigènes. Mais à partir de là, si on ne laisse pas... Enfin, en tout cas, c'est la conclusion que nous, qu'on en tire au bout de 9 ans, c'est que...
C'est pas un hasard si on est là, on est en 2023 et qu'on commence la dégustation par des sites 2019, 2020.
Ouais, c'est ça qu'on va chercher.
Parce que c'est là qu'on goûte les choses.
En 10 ans, on va dire, vous avez un recul peut-être, alors qui ne sera pas suffisant, hein, parce que c'est bien que c'est l'histoire d'une vie, tout ça, voire deux, ou trois. mais est-ce que déjà, peut-être que sur une cuvée que vous avez déjà testée dès vos débuts, qui vous a suivi jusqu'à maintenant, est-ce que vous arrivez à vous dire peut-être que là, on a vraiment un impact sur la durée qui nous dit que bah, ouais, ça, c'est notre pâte à nous ou il y en a d'autres, peut-être, que vous dites, peut-être des cuvées qui sont peut-être plus révélatrice de ça que d'autres.
Bah Marc, il dit souvent qu'on fait du cidre qu'une fois par an et qu'il faut rester très très modeste. Donc, je pense que ça reste vrai. Le recul, il est modéré puisqu'on a fait que 9 fois du cidre, quoi. Donc ça reste très très peu de choses par rapport à un brasseur ou à un cuisinier. Mmh. Mais en tout cas, on livre là nos intuitions.
En vrai, au bout de 10 ans, en tant que producteur de cidre, t'as rien comme expérience encore, quoi. Voilà, et tous les ans, c'est pas pareil. On apprend tout le temps. Mmh.
Parfois à notre détriment, parfois avec de la réussite. Mais t'apprends pour l'année d'après, donc c'est toujours trop tard.
Parce qu'on a, sur toutes nos cuvées, on a plutôt appris à chaque fois et, et progressé, entre guillemets, ou affiné en tout cas par rapport à ce qu'on cherchait à avoir. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça se compte sur les doigts de la main. Scarigène, là c'était un premier essai. Point Bar, c'est un premier essai. Vague à la mer, on en a fait 3 fois.
2 fois.
Enfin, pas toutes les cuvées tous les ans, et ça fait que 9 ans. Non, on n'a pas tant que ça de recul, mais c'est très clair que qu'il faut être patient et qu'il faut les attendre. On n'est jamais déçu de ça, en tout cas.
Et du coup, vous avez embouteillé combien de bouteilles, là, à peu près, quand on regarde un petit peu? Ça commence à faire beaucoup bouteilles qui vont dormir, là, tranquillement.
Bah ouais, tu vois, c'est un peu le résultat de ces idées, là. C'est que nous, on commercialise à peu près 35-40 000 bouteilles dans l'année. Mais si on faisait des bouteilles qui ont un peu d'âge et les laisser vieillir, bah, on est obligé d'avoir du stock. Donc là, tu as des bouteilles de plusieurs années. Et cette année, on était plutôt sur une bonne récolte. On a dû faire autour de 50 000 bouteilles. Donc une bonne partie qui va attendre 1 ou 2 ans. Donc, qui ne seront pas vendues cette année. Qu'on se fait notre réserve, quoi. Pour pouvoir attendre justement. Parce que sinon, parce que tu parlais aussi des cuvées de nos débuts, comment elles ont évolué, etc. Mais en fait, il y a aussi qu'elles sont parties, quoi, parce que au début, on avait besoin de les vendre assez vite. Et c'est vraiment avec le temps qu'on arrive à avoir une gamme de cidres à proposer, qui sont pas forcément des cidres de l'année. Et parce qu'on en faisant un peu plus chaque année par rapport à ce qu'on commercialise. Ça nous a pris un peu de temps aussi d'arriver à ce rythme-là, quoi.
On est peut-être en passe d'arriver à avoir en même temps 3 extra bruts de profils différents là dans les mois qui viennent. Et ça, c'est une perspective assez excitante qu'on n'a jamais pu atteindre en 9 ans parce qu'il y avait toujours des ruptures de la précédente ou quoi. Et les extra bruts se succédaient mais sans forcément cohabiter. Donc là, c'est intéressant puisqu'on a, un extra brut vif et tannique, un style un peu plus sauvage qui est freerider. On a Chistre, qui a un extra brut à profil relativement acidulé, qui évoque pour nous plus les vins blancs des choses vives qui peuvent aller sur les huîtres ou d'autres choses. Et puis on a Vague à la mer qui ressurgit après une longue absence, qui est un extra brut trad, un peu plus velours sur ses tanins et un peu plus sur la typicité d'ici. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à l'idée de les imaginer tous les trois côte à côte chez nous à la voûte, quoi. Pour encore davantage, s'il est encore besoin, démontrer que ces catégories brutes d'eau demi-sec ne veulent pas forcément dire grand-chose en termes de style de cuvée, quoi. Et que trois extra brutes peuvent renvoyer à trois impressions radicalement différentes, quoi.
Et c'est quelque chose dont vous arrivez à discuter, échanger avec les locaux et qui sont curieux de goûter un petit peu ce que vous faites par rapport à ça.
On s'appuie aussi beaucoup sur leur retour et leur perception pour continuer à chercher dans cette direction de qu'est-ce qu'était un cidre paysan bien fait à la grande époque. D'autant plus qu'on n'est pas né là, donc c'est très très précieux en fait. Après, il y avait le cidre bouché fruité du dimanche, il y avait le cidre de barrique, cidre de soif qu'on buvait au champ. Donc on joue aussi un peu sur ces différentes catégories, quoi. Freerider, plus proche le cidre de barrique à l'ancienne, à 15 bornes d'ici. Point barre va incarner davantage le cidre bouché, fruité, du dimanche, quoi. Donc on peut aussi jouer sur cette palette. Et puis après, Chistre, c'est plus des inventions, des marottes plus personnelles. C'est de ramener une culture de l'acidité qui nous vient d'ailleurs, en fait. Ensuite, combiner les tanins et l'acidité, ça a quand même été une grosse découverte pour nous et un kiff, mais qui est venu spontanément, quoi. C'est-à-dire, Dame Nature nous a parfois proposé des choses et on a su être à l'écoute en trouvant que ça matchait bien à table. Et donc là, on enlève le côté doux amer, on garde juste le côté amer et on ajoute un côté plus tranchant, plus vif, qui nous vient d'ailleurs et qui servait juste à éviter l'oxydation, enfin à protéger en fait le cidre, hein, un petit saut d'acidulé et basta. Donc là, on augmente ces proportions-là pour créer un équilibre vineux en fait. Et ça a été un peu une découverte liée au cidre, mais quelque part on combine des caractéristiques de vin rouge avec les tanins et des caractéristiques de vin blanc avec la vivacité. Et donc ça nous offre aussi une liberté hyper chouette.
Et du coup, là, c'est Freesider.
Ouais.
Forcément. On met le nez dessus, on le sait.
Donc, justement, vif et tannique à la fois. Et puis, très, très peu de sucre résiduel. Hein, on va être aux alentours de 9 grammes.
Petit bout de fromage avec ça.
Complètement.
J'ai goûté sur le thon aux algues. C'était pas mal.
On a, quand on met le nez dessus, on a envie d'aller sur le côté mer. Dès qu'on l'a en bouche, on a un côté assez salin qui met l'eau en bouche. Donc,
on a envie d'aller plutôt sur
sur la terre. Fromage à porter. Ouais, ça nous remet un petit peu plus sur terre. Même la charcuterie, je suis sûre que
oui,
ce
oui.
serait pas...
Oui, c'est bien la charcuterie.
Ce serait pas déconnant. C'est marrant que le bruit de la table, on se croirait dans un bateau.
ça tangue.
C'est le pouvoir du cidre, ça.
C'est impressionnant. On est dans les cales d'un bateau.
Déguster le paysage.
J'imagine les barriques, là. T'en parlais tout à l'heure, sur Freesider.
Les barriques,
cidre. On va revenir à l'histoire du cidre, là.
Alors là, on a de l'abondance.
Ok.
Et
c'est de la tome locale à côté de chez moi.
Ah, chouette. Donc deux tomes de vaches, deux salles de ambiance.
Exactement.
C'est souvent ce qui se dit, c'est que les gens trouvent que la Bretagne est parfaite, à part qu'il n'y a pas beaucoup de vin ni beaucoup de fromage. Alors du coup, c'est important d'essayer de rattraper ces idées reçues. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent en production fromagère. Mmh. Donc, c'est vrai que la tradition n'est pas forcément très très ancienne ou très étayée, mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui se produisent aujourd'hui. Et puis du coup, ils se plantent de la vigne quand même depuis déjà quelques années. Et puis également, le cidre peut aussi permettre les accords parfaits, donc s'en tire de mieux en mieux. Et comme tu le disais récemment, là, c'est vrai que fromage et cidre, les gens ont compris, après la question de l'apéro, les gens ont vraiment compris que fromage et cidre, ça marche. Ça marche même très 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 bien. Il y a même des sommeliers qui commencent à dire que des fois, ils ont plaisir à aller chercher des cidres et poirées pour accorder sur certaines choses, dont les fromages, quand ils ne savent pas comment accorder. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, c'est vrai que les fromagers s'intéressent de plus en plus à avoir des rayons cidre dans leur fromagerie, quoi.
Ça rapporte beaucoup de fraîcheur aussi. On a déjà ce côté effervescence qui vient rincer un peu le palais, qui vient équilibrer le gras du fromage. Et puis, on a toujours mis des chutneys ou des confitures avec des fromages. Ça va un peu, encore une fois, du bon sens de se dire, bah oui, la pomme, elle a un fruité intense, et des fruités même, des familles aromatiques incroyablement intenses et diverses et variées. Ça appelle le fromage, et puis encore une fois, quand on vient travailler sur des fermentations plus poussées, bah là, on va aller chercher ce jeu de texture, et ça, c'est encore un autre monde qui s'ouvre. Donc on a finalement pas mal de qualités et d'atouts sur les deux mondes. Enfin, si tu veux goûter avec la petite tome, t'as pris
quoi, Marc ? Ouais.
Alors, elle n'a pas la même texture, mais elle est beaucoup plus granuleuse.
Elle est assez affinée, c'est chouette. Mmh. Alors après, des choses comme point barre là-dessus, ça marche très bien aussi. Hein. Mmh. Là, c'est vrai qu'on allait chercher Free Rider. Mais... J'ai cherché une bouteille en haut parce que je voulais que tu goûtes le profil avion vieillissement, le profil des 2022, qui est extrêmement... Donc, c'est pas abouti, mais c'est vraiment très intense, quoi. Donc, effectivement, plus c'est jeune comme cuvée, et plus les tanins sont présents. Donc, avec la texture en bouche qui peut être quand même assez marquée. Et plus ça va, plus, en fait, l'équilibre à amertume-acidité... évolue favorablement à l'acidité parce que les tanins ça s'agisse. Donc c'est vrai que c'est l'avantage aussi des cidres vivants, c'est qu'on n'a pas le même ressenti au fur et à mesure des années. Du coup là, l'avantage aussi de Free Rider, c'est qu'on peut aller sur des fromages relativement osés, enfin des choses très fortes en fait, avec beaucoup de caractère, et du coup le cidre va pas s'effacer, quoi.
Un cidre avec un peu plus de sucrosité, c'est pas mal aussi.
Je peux regoûter point barre, mais là-dessus, je pense que c'est
mieux.
Je pense
que sur l'abondance, ça explique qu'elle a une texture un peu plus crémeuse aussi. Mm. Elle appelle, puis elle est un petit peu plus subtile aussi en termes aromatiques.
Mm. C'est ça, en fait, ça peut supporter des fromages beaucoup plus de caractère que ça, en fait.
Mm. Du maroilles, même.
Ouais. Ah oui, non, mais complètement.
Là, on est sur des fromages assez doux encore. Donc. Ouais.
On n'a pas été extrémiste.
Mais la tome est vraiment très très bonne. La tome affinée chez toi.
Bah ouais, du coup, ça va. J'aime bien avec Free Cider dessus. Je trouve que ça. Alors, même, j'ai l'impression que c'est plus Free Cider qui prend le dessus par la suite. Quand on voit le potentiel de puissance que ça peut avoir. On ne dirait pas comme ça, et en fait, on se dit, waouh, en fait, on peut monter encore et encore et encore.
Ouais. On peut aller sur du maquereau fumé, sur du poisson cru, sur des épices, sur de l'andouille, sur du boudin noir. C'est vrai qu'il a du coffre. Ça, c'est l'avantage et l'inconvénient de la cuvée. C'est que ça peut aussi écraser. Si c'est des fromages un peu subtils, peut-être c'est mieux de rester sur point barre que je t'ai mis du coup dans le verre. Ça rejoint un peu cette idée là que tu avais proposée de laisser aux gens le choix de tester deux accords sur deux plats différents. L'un qui était point barre avec du coup ce côté plus classiquement cidré, un peu plus fruité, mais néanmoins très amertumé. Et puis Free Rider qui était tout en puissance. Et c'est rigolo, selon les gens, selon l'ambiance, le moment, les avis pouvaient varier. Donc ça, c'était très chouette et très ludique comme expérience. Les gens ont testé les deux. Ça, c'est Vague à la mer.
Ah non, Vague à la mer.
2022.
Que vous venez fraîchement d'embouteiller, du coup, là, cette semaine.
Ouais, c'est juste pour que tu aies un aperçu.
Pareil, c'est un lieu.
Alors, c'est juste pour que tu sentes le profil de l'année, en fait, mais pour l'instant, c'est pas fini.
C'est un cidre en devenir.
Ouais, c'est un peu oxygéné par la mise en bouteille, donc il faut qu'il se remette sur ses pieds. On sent toute la richesse de l'année, quoi. Cette mâche.
C'est chaleureux. Même tu l'as. On y est, tu sens une chaleur.
On sent le soleil. Hein. Mm-hmm. Et donc ce côté fruité, mais toujours un peu cette texture un peu plus velours quand même. Un peu plus pinot noir pour nous, à vrai dire. Mais voilà, ça doit être un peu plus feutré, un peu plus contenu. Un peu moins sauvage et se fruiter quand même. Donc là, les douces amères, elles sont quand même dans le spectre.
Mais c'est intéressant de le goûter maintenant. Je me dis que dans quelques mois...
Voilà, tu pourras y ressonger.
Mm-hmm, complètement.
Ça sera descendu un peu en sucre. Pour que la bulle puisse se former. Côté presque un peu fumé, en fait. Je sais pas, c'est rigolo.
Je retrouve un petit côté point barre et un petit côté freesider.
C'est ça.
Et j'ai l'impression qu'il y a un petit... comme s'ils s'étaient mariés ensemble et ils avaient fait un petit...
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais.
Mais c'est
en termes variétal, c'est un petit peu ça. Puis les deux sont non filtrés. Et ensuite, là, on est sur une approche qui autorise le zéro soufre, parce que du coup, on est sur des choses qui sont quand même suffisamment acidulées pour ça. Mais avec quand même une personnalité amère, douce amère, qui est bien là.
Mmh. Bon, ben, rendez-vous dans 6 mois pour...
au moins.
Pour retester les aquarius
plus, pour redéguster, enfin revoir d'ailleurs, parce que j'ai hâte de voir l'étiquette de Vague à la mer, ce que ça va donner. Et puis...
Des magnums.
Non, des magnums. Mmh.
Ouais, c'est eux qui décident en fait, c'est les sites qui décident, et quand c'est bon, ben, c'est bon. Mais on ne sait pas d'avance. Ça, c'est toujours la question commercialement quand les gens me disent « Quand est-ce que ça va être prêt ?» Alors, Marc me regarde et il rigole. Ben, je sais pas.
Si vous avez la météo, le climat, les températures,
je sais pas.
La pression.
C'est un peu des divas. C'est elle qui décide.
Bon, allez, je vais couper ce micro pour qu'on finisse de manger dans le silence. petite dernière question quand même. Qui aimeriez-vous écouter sur un prochain podcast ?
Il ne faut pas qu'on te simplifie la tâche non plus.
Ouais. J'aime les défis. Marc me connaît.
Non, je dirais Bichencho en Pays Basque. Ça me ferait plaisir de l'entendre à ce micro. Mais du coup, ça ne va pas simplifier la tâche géographiquement.
Non, mais alors par contre, j'adore le Pays Basque. On va prendre la petite voiture et puis on va repartir.
Hein. Ça, c'était mon choix, mais Marc a peut-être une idée de quelqu'un qui appartient en horreur des micros.
C'est ça. Je sais pas, tu peux aller en Suisse, tu peux aller
Les frères aussi.
En Angleterre.
En fait, faut que je fasse un petit tour d'Europe. Je prends une année
sabbatique. Tu connais, non, déjà, de toute façon.
Little Pomona.
Ah ouais, ah, ça serait bien.
Voilà, c'est dit.
Bon, bah, j'ai une liste. Merci.
Merci à toi.
Merci à toi,
merci pour l'apéro.
Ok, pomme, j'adore ça. Donc, ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon, le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Vous avez vu, bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.